notre recherchiste d'archives, Thierry Dupin assure la programmation musicale et Nicolas Delmas était à la technique aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain, samedi à 18h ou dimanche à 23h et quand vous voulez en podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, eh bien c'est la politique qui s'intéressera à vous.
France Inter, il est minuit. Le flash, Alexandra Dubouchron.
Xi Jinping passe sa première nuit en France. Le président chinois est arrivé à Paris en milieu d'après-midi. Il va entrer dès ce lundi matin dans le vif du sujet avec une réunion à l'Élysée entre Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Deux dossiers notamment sont sur la table. Dominique André, a commencé par la guerre en Ukraine.
La guerre en Ukraine, au cœur de l'Europe, est un sujet prioritaire, fait savoir l'Élysée. Hier, le journal Le Figaro publiait une tribune de Xi Jinping dans laquelle il écrit espérer que la paix et la stabilité reviennent rapidement en Europe. Mais le président chinois n'a jamais condamné l'invasion russe et prochainement, il recevra Vladimir Poutine pour la deuxième fois à Pékin depuis le mois d'octobre. Durant cette visite d'État, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est que la Chine fasse pression pour faire évoluer Poutine. Emmanuel Macron le croit-il vraiment ? L'autre grand dossier de cette visite, c'est le commerce. Avec 49 milliards d'euros de déficit commercial pour la France en Chine et près de 400 milliards pour l'Union européenne, la politique défensive de l'Europe sur les voitures électriques chinoises irrite profondément Pékin, qualifié de partenaire, concurrent et rival systémique en 2019.
Dominique André de la rédaction internationale de France Inter. Une cérémonie officielle est prévue ce lundi aux Invalides pour Xi Jinping et ce lundi soir dîner d'État à l'Élysée avec des artistes chinois et des diplomates. Mardi, Emmanuel Macron emmènera son homologue chinois au Tourmalet dans les Hautes-Pyrénées. Pour sa première tournée européenne en 5 ans, le dirigeant chinois se rendra ensuite en Serbie et en Hongrie. Bientôt 7 mois de guerre et toujours pas de trêve à Gaza. Le Hamas et Israël se sont montrés inflexibles lors de nouvelles négociations au Caire ce dimanche. La délégation du mouvement islamiste palestinien est repartie pour consultation, mais elle pourrait revenir mardi, selon des médias égyptiens. Et puis les Américains continuent leurs efforts en coulisses. Le patron de la CIA, William Burns, s'est envolé pour Doha au Qatar ce dimanche soir. La branche armée du Hamas revendique les tirs de roquettes de ce dimanche autour de Kerem Shalom, principal point de passage de l'aide humanitaire au nord de la bande de Gaza. Elle affirme avoir voulu viser l'armée israélienne qui annonce ce soir la mort de 3 soldats et de 12 blessés. Israël a aussitôt fermé le point de passage. En France, les auteurs de la fusillade de Sevran en Seine-Saint-Denis sont toujours en fuite. Cette nuit, deux hommes de 31 et 25 ans et 35 ans pardon, ont été tués par balle ce dimanche soir dans la cité basse, moins de 48 heures après une première fusillade qui avait fait un mort. On a de bonnes raisons de penser que ce n'est pas complètement étranger au trafic de stupéfiants, indique le préfet de police. De Paris à Marseille, en passant par Montpellier, Lyon et Bruxelles, plusieurs milliers de personnes ont défilé ce week-end contre la transphobie. Elles dénonçaient notamment une proposition de loi portée par les LR au Sénat et qui vise à interdire le changement de genre chez les moins de 18 ans. Le texte sera examiné le 28 mai en séance publique. La France veut accentuer son virage vers la voiture électrique ces 3 prochaines années en multipliant par 3 le nombre de ventes. Objectif 800 000 ventes en 2027, d'après le contrat de filière entre l'industrie automobile et le gouvernement. Il a 24 ans et vient de remporter son premier Grand Prix en Formule 1. Le pilote britannique Lando Norris crée la surprise ce soir et s'impose sur le circuit de Miami en Floride avec sa McLaren. Il devance le triple champion du monde Max Verstappen, parti en pole position. En tennis, André Rublev a été sacré à Madrid tout à l'heure. Le Russe a battu Félix Auger-Aliassime en finale. C'est sa deuxième victoire en Masters 1000. La météo.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Et c'est une journée encore pluvieuse pour démarrer la semaine, Céline Dacosta.
Oui, mais c'est quand même sur l'est du pays qu'on aura le plus de précipitations, des averses qui seront même orageuses du sud-est à la Franche-Comté avec de bonnes quantités de pluie. On aura un petit peu de neige également sur les Pyrénées et les Alpes au-dessus de 2200 mètres. Les Alpes-Maritimes et la Corse devraient rester au sec avec un soleil bien voilé. Ça, c'est pour l'est. Un petit coup d'œil à l'ouest où ce sera plus calme, surtout de l'Aquitaine au centre et en Bretagne où on aura quelques éclaircies, mais les nuages vont vite reprendre le dessus. On aura même des orages dans l'après-midi sur le quart nord-ouest. Pour toutes les autres régions, un ciel de traîne classique va se mettre en place avec une alternance de nuages, d'éclaircies et de faibles averses. Les températures encore assez douces le matin, 7 à 13 degrés, ça baisse un peu l'après-midi avec les précipitations, 14 à 18 du nord au sud, jusqu'à 25 encore pour la Corse. Mais patience, les températures en hausse et le retour du soleil pour tout le monde, ce sera à partir de mercredi et au moins jusqu'à la fin de la semaine.
Merci Céline Dacosta. Et à minuit 5 sur France Inter, c'est Vincent Josse et son grand atelier.
Oui, ils sont nombreux les metteurs en scène à désirer monter Don Juan de Molière, sans parler des théoriciens du théâtre qui analysent régulièrement la figure ambiguë du personnage. Masha Makeyev n'a pas résisté. 3 ans après Tartuffe, voici Don Juan par son regard. Bonjour Masha Makeyev.
Bonjour Vincent Josse.
La pièce est présentée au Théâtre de l'Odéon à Paris, avec entre autres Xavier Gallet dans le rôle titre. Votre invité a 21 ans, je salue Joseph Arzoumanoff d'Edin. Bonjour.
Bonjour Vincent Josse.
Vous êtes joaillier et brodeur d'art, c'est votre première radio, alors je suis très fier d'être votre parrain. J'invite tous les auditeurs à se rendre dès maintenant sur votre Instagram pour admirer vos bijoux, vos broderies. Masha Makeyev va nous expliquer son coup de cœur et l'origine de ce coup de cœur. Le Grand Atelier est aussi le lieu des conseils. Je vais évoquer un spectacle de Joël Pommerat, repris au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, la réunification des deux Corées et le hors-série des Cahiers du cinéma consacré au cinéaste Jacques Demy. Je vous souhaite une bonne après-midi sur France Inter. Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Grâce au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, Joël Pommerat offre une seconde vie à cette pièce sur l'amour, la réunification des deux Corées créée il y a 11 ans à l'Odéon. Ce sont plein de petites séquences, 20 courtes scènes dans lesquelles hommes et femmes vivent quelque chose de l'ordre de l'amour, des variations contemporaines, amoureuses. Une femme s'apprête à se marier, mais sa sœur surgit en pleurant. Figurez-vous que le futur mari l'a embrassée autrefois et elle est amoureuse. Le mariage, selon elle, ne peut pas avoir lieu. Consternation de la fiancée et de la famille, mais peu à peu, les autres sœurs avouent, elles aussi, avoir un jour embrassé cet homme. Imaginez la tête de celle qui s'apprêtait à dire oui. La scène pourrait être tragique, sinistre, elle est drôle, traitée comme un boulevard, façon la biche. Ce qui n'empêche pas Pommerat de radiographier des situations moins comiques. Le surveillant d'un dortoir est soupçonné d'avoir abusé d'un enfant. Il se justifie, qui dit vrai, l'enfant et ses parents, ou cet homme qui assure donner le plus d'amour possible aux enfants dont il a la charge. De nombreuses scènes interpellent. Rien n'est jamais simpliste, il n'y a pas de jugement, libre à nous de ressentir dans ce qui ressemble souvent à un théâtre de la menace. Qu'il s'agisse de passion, de rupture, de quiproquo, du manque, le discours est fin et sa présentation toujours fascinante. Dans cette manière si particulière de plonger le spectacle dans un clair-obscur inquiétant, l'auteur-metteur en scène Pommerat donne du relief à ce qui se joue devant nous. Il fait ressortir les scènes en les dessinant avec la lumière, bande verticale qui amène les acteurs à marcher d'une manière précise, bande horizontale pour un autre effet, il ajoute des sons d'ambiance en écho. Entouré d'acteurs fidèles comme Ad Roger et Yannick Chouara, Pommerat ausculte avec cœur et chaleur les effets de l'amour sur toute une galaxie humaine. Je me permets de vous poser la question de la spectatrice que vous avez été quand vous avez vu, il y a 11 ans peut-être, ou récemment, la réunification des deux Corées, Masha Makeyev.
Je l'ai vu il y a 11 ans et Pommerat est vraiment un producteur d'émotions magnifiques. Je pense que c'est pas excessif de dire qu'il a du génie à cet endroit. Et particulièrement le spectacle que vous décrivez est parmi ceux qui m'ont le plus touché. Il y a une scène entre un couple et une babysitter. Mmh. Et puis à la fin de cette scène, très tendue, très a priori conventionnel dans le discours, eh bien on apprend qu'il n'y a pas d'enfant.
Mmh. Et voilà. C'est une des plus bouleversantes, vous
ah
avez
oui,
raison.
Ah oui, vraiment. Et c'est à cet endroit un grand poète, Joël. Oui.
Mmh. Auteur et metteur en scène.
Oui, j'étais très heureuse de la voir à la Criée.
Oui, quand vous avez dirigé la
Criée. Oui, et aussi on se retrouvait au Baumette, où il faisait des ateliers vraiment très beau avec les détenus. Oui.
Jusqu'au 14 juillet, la réunification des deux Corées du mercredi au dimanche, théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Et puis j'ai appris ce week-end qu'une tournée va suivre à l'automne.
I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, moi qu'à prendre café en moins. Il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi, je peux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, ne te retourne pas. Elle m'avait dit, je serai près de toi, mais quand je regarde autour de moi, personne, non. And I'm walking alone, yes I'm walking alone, où je marche seul, que le bruit de mes pas. And I'm walking alone, yes I'm walking alone.
C'était Delgrès, Walking Alone.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Masha Makayev, quand vous étiez venue dans le Grand Atelier version précédente, celle de 2 heures, vous étiez en train de monter un auteur russe au Théâtre de la Criée, on le disait à Marseille, que vous avez dirigé jusqu'en avril 2022, ça fait pile 2 ans, dans lequel vous aviez, je me souviens, un très très bel espace pour votre atelier, là où vous aimiez concevoir les costumes, il y avait plein de choses, il y avait des broderies, il y avait des tissus, il y avait des livres et des photos aussi. Agnès Varda, à l'époque, avait tenu à vous envoyer un petit message par WhatsApp. Vous vous souvenez?
Oui.
C'était 1 an et demi avant la disparition de la cinéaste.
Masha Makayev est une créatrice extraordinaire, une artiste, une rêveuse, une utopiste. Depuis le temps qu'elle travaille, j'ai des souvenirs tout mélangés et très beaux. Les déchiens qu'elle faisait avec Deschamps, mais des spectacles, je me souviens d'un défilé de femmes de ménage, très bien habillées en femmes de ménage. Je me souviens, oh mon Dieu, d'une exposition où tout était désastreux. Le lait était cassé, les objets étaient trouvés aux puces. Et puis, son atelier, plein de bazar qu'elle utilisait d'une façon ou d'une autre. Elle a écrit des pièces de théâtre. Elle va, elle cherche tout le temps des idées. Et elle le fait d'une façon tellement vivante, tellement drôle. Je l'embrasse et je l'aime.
Voilà, ça fait plaisir de réécouter Agnès Varda, je sens votre émotion. Alors je me tourne aussitôt vers Joseph, notre artiste, brodeur et joaillier, Joseph Arzoumanov, parce que vous avez, quand vous étiez petit garçon, paraît-il, visité, vu, admiré l'atelier de Masha Makayev. Alors j'aimerais savoir à quelle occasion et surtout, est-ce que vous pouvez nous prêter vos yeux, à quoi il ressemblait?
Eh bien, j'avais pu visiter ton atelier Masha il y a plus de 10 ans. Et c'était... Mon grand frère, à l'époque, jouait dans un opéra de ta fille, Altrechtele, par Juliette Deschamps. Mmh. Et donc, j'avais pu visiter l'atelier, et je me rappelle d'une grande autruche empaillée à l'entrée, à gauche. Et je me rappelle d'une profusion de tissus. Et j'avais adoré, même si c'est loin, j'avais 6 ans, 6-7 ans, quand j'avais visité ton atelier. J'avais demandé à ma mère après de pouvoir faire un stage chez toi, 10 ans plus tard, avec cette autruche empaillée en tête et ces murs de tissu fabuleux.
Donc c'était pas le stage de troisième, c'était après ?
Non, c'était bien après, c'était mon
Vous aviez stage. 16 ans à peu près, oui.
Non, j'avais 18 ans quand j'ai recontacté Macha.
Oui, c'était l'école du Perret, c'est oui. Ça, oui.
Et vous avez dit oui, Macha, pourquoi ?
Alors, sans doute...
Vous êtes très sollicité, non ?
Oui, mais je dis oui très souvent et j'aime beaucoup accueillir dans l'atelier. Et puis, j'aime beaucoup cet aléatoire, j'aime beaucoup le destin et j'ai confiance. Et ceux qui arrivent, celles qui arrivent, généralement, on a un cheminement ensemble. Et voilà, la porte est ouverte de ce point de vue-là. Et voir arriver un ou une jeune artiste, c'est toujours... Bien sûr, une émotion, mais aussi une espérance. Et il n'y a rien de mieux pour les mélancoliques que cet exercice d'espérance.
Vous dites souvent de vous-même que vous êtes une mélancolique.
Ah oui, parce que je traîne ça, hein, ça me reprend de temps en temps. Et justement, il faut des contre-feux et admirer quelqu'un de beaucoup plus jeune que soi, c'est assez... Là-dessus, c'est un contrepoison magnifique.
Oui, c'est un effet à la fois anxiolytique et antidépresseur.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il vous a dit à 18 ans, Joseph, quand il a frappé à la porte ? Il vous a dit, est-ce qu'il vous a dit ce qu'il faisait ou ce qu'il voulait faire chez vous ?
Non, en fait, il était question de costume, préparer des costumes d'un spectacle, on me donnait un coup de main, et il m'écoutait un peu mes sornettes, comment on s'y prend, etc. Et puis, mes souvenirs, c'est que Joseph est venu, il y avait une petite table, il s'était un peu attribué cette petite table, il arrivait avant moi, donc assez tôt le matin, et je le voyais travailler avec ses matériaux, et dès que j'arrivais, il rangeait tout ça pour être disponible, et puis, je crois qu'un jour, je lui ai dit « Non, mais continue ce que tu as à faire, je pense que c'est mieux que de ranger tes costumes. » Et il m'a montré...
Et c'était quoi ?
Alors, c'était des débris magnifiques dont il faisait surgir un personnage et un imaginaire incroyable. Et avec trois fois rien, et quand même des choses extrêmement précieuses, avec tout un protocole de petites boîtes, il transportait ces petites choses extrêmement précieuses à ses yeux... Et après, quelque chose sortait d'un personnage, d'un animal fantastique. Et je me suis toujours demandé ce qu'il célébrait comme ça.
Il va vous répondre aujourd'hui dans le grand atelier, Macha Makeyev. Mmh. Joseph ?
Eh bien, c'était après avoir lu L'amour des choses et Poétique du désastre, qui sont deux petits livres que tu as écrits.
Ben, j'en apprends des choses.
Tu évoquais dans ces livres la petite Macha qui traînait dans les rues de Marseille avec son petit frère et qui ramassait des débris par terre, des petites choses, des petits boutons, des bouts de tissu, des bouts d'os.
Et est-ce que Macha, si je puis dire, d'une autre génération que la vôtre, sans vous enfoncer, oui. Madame Makeyev, avait le même comportement que vous, Joseph, petit garçon ? Est-ce que vous étiez en train de fouiller, d'avoir des petits objets chez vous de...
Oui, totalement. J'ai 4 frères, donc on fouillait ensemble.
Et vous cherchiez quoi ? Vous rassembliez quoi ? Vous collectionniez quoi ?
Les choses qui brillent, tous les trésors, les choses en métal, beaucoup. Et les pièces aussi.
On va revenir à vous et à votre art de la broderie et de la joaillerie, Joseph Arzoumanov-Dédin. Je voudrais qu'on évoque le Don Juan que vous proposez et présentez à l'Odéon à Paris, qui a été créé, je crois, au TNP de Villeurbanne avec
succès. Oui, tout à fait, grâce au TNP.
Macha Makeyev, avec un premier extrait. On rentre dans la pièce avec un échange entre Sganarel, Vincent Winterhalter et Don Juan, Xavier Gallet.
Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête.
Tu crois ?
Oui.
Ma foi.
Tu ne te trompes pas. Je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée.
Mais mon Dieu,
je sais mon Don Juan sur le bout des doigts et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de lien en lien, et même guère à demeurer en place.
Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte ?
Eh, monsieur...
Quoi ?
parle. Assurément que vous avez raison. Si vous le voulez, on ne peut pas aller la contre.
Quel lien fascinant que celui de Sganarelle et Don Juan. Macha Makeyev, Sganarelle fait attention à ce qu'il dit pour ne pas perdre son poste, on dirait aujourd'hui. Mais il réussit, très intelligent, à glisser des vérités avec ses mots, avec sa culture, avec sa ruse.
Oui, je voulais vraiment là-dessus travailler avec Xavier et Vincent sur un couple tandem extrêmement relié, une reliance entre ces deux personnages-là. Et il fallait évidemment deux acteurs qui je pense se connaissent déjà pour avoir joué dans Tartuffe. Et surtout, je voulais faire entendre que l'un sans l'autre, c'était impossible, que l'un provoquait l'autre et provoquait l'action de l'autre.
Est-ce que c'est un monstre à deux têtes ?
En quelque sorte, oui. C'est-à-dire, c'est aussi une amitié impossible, parce que socialement, c'est impossible. Et en même temps, il y a entre eux une sensualité autour de la jouissance du mal et aussi autour de la réflexion. Sans arrêt, Sganarelle le pousse à l'aveu et sans arrêt. Et quand il se tait, Don Juan réclame les questions qui le pousseraient à l'aveu. C'est-à-dire, ils sont absolument liés. J'ai pensé beaucoup au marquis de Sade et à Latour, son valet, compagnon de frasque, qui là aussi ne faisait jamais l'un sans l'autre. Et Sade donnait du monsieur le marquis à son valet.
Vous avez relu Sade avant ou lu Sade avant?
Oui, beaucoup, beaucoup, oui. Oui,
et peut-être Chantal Thomas écrivant sur Sade?
Notamment, oui, magnifiquement. Magnifiquement.
Et vous les faites se ressembler même physiquement, parce qu'ils ont la même élégance.
Oui, c'est-à-dire que je voulais surtout pas que Sganarelle soit un valet benêt, qui ne fasse que subir. Donc sans arrêt, c'est pour ça que le XVIIIe siècle m'aidait aussi à faire entendre que cette aristocratie était en danger, parce que l'esprit était partagé aussi, et que Sganarelle a au moins autant d'ironie et d'esprit que Don Juan, et que Don Juan aime ça en fait. Il aime aussi cette espèce de jeu pervers qu'ils ont entre eux. Il y a quelque chose de sadien aussi dans leur relation.
L'adjectif est lâché, pervers. En regardant le programme du théâtre Macha Makeyev lié à votre Don Juan, j'ai vu qu'un séminaire était organisé au théâtre de l'Odéon le 15 mai à 18h en écho, je cite, au spectacle, intitulé ce séminaire « Donjuanisme et séduction à l'ère post-MeToo ». Qu'est-ce que ça veut dire de monter Don Juan dans « à l'ère post-MeToo » ?
Je pense que ça veut dire que dans mon inconscient de femme, quelque chose a travaillé, que c'est à ce moment-là de ma vie, à ce moment-là du monde que je monte Don Juan, qu'il n'y a pas d'absolu hasard. Bien sûr, c'est la force poétique de cette pièce et la force dramatique. Voilà que je me dis ça, mais sans doute qu'il y avait des choses qui se font que je sentais devoir se faire entendre à cet endroit-là, d'un Don Juan qui est à bout de souffle, qui n'en peut plus, qui est prêt d'être trahi, rejeté, et qui va de défaite en défaite et qui n'est pas du tout triomphant.
C'est vrai qu'il n'est pas triomphant et qu'il ne triomphe pas.
Mais si vous savez, c'est vraiment pas seulement mon regard, c'est vraiment, si on prend l'épine dorsale de la pièce, c'est un être sans cesse empêché. Alors qu'il soit poursuivi, qu'il soit enfermé, comme j'ai préféré le mettre chez lui, mais chaque fois qu'il a un projet, ça n'aboutit pas.
Oui, c'est vrai.
Et sans cesse, il est il a un désir qui le dépasse, qui est immense, qui est dangereux, criminel, pervers. Et pourtant, sans arrêt, Molière à cet endroit est aussi sadien, c'est-à-dire sans arrêt, il lui dit mais non, ah non, c'est pas encore le moment, et non, tu n'auras pas, hop, et sans arrêt, il est empêché par la dramaturgie. C'est à cet endroit que le génie de Molière se fait entendre aussi, et l'ambivalence.
On va continuer de l'écouter, le génie de Molière, à travers une figure féminine très importante, c'est Elvire. Dieu sait si elle souffre, je dis Dieu à dessein, puisqu'il est question de religion aussi, bien sûr, dans Don Juan. C'est une figure héroïque qui décide, après avoir tant souffert, de ne plus souffrir. Elle revient le voir, Elvire, elle revient voir Don Juan, qui va essayer de l'embrasser, et peut-être plus. Et elle est incarnée par Irina Solano, et elle dit non.
Je vous assure.
Non ! Non, vous dis-je. Ne perdons point de temps en discours superflu. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis.
Voilà, à l'heure où l'on parle tellement de consentement, Elvire dit avant tout le monde non, Macha Makeïev.
Oui, elle le dit deux fois. Pourquoi ? C'est très important parce que cette scène me bouleverse aussi et Xavier Irina sont magnifiques. Ils dansent, c'est-à-dire que je voulais vraiment montrer que le corps était une chose et l'esprit allait ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a compris, mais son corps, lui, n'a pas compris, qui aime être entre les bras de non-jurant. Donc quelque chose cède à un moment et cette femme forte se reprend et lui dit à deux reprises non. Non, Don Juan. Et voilà, faire entendre ça aujourd'hui me paraissait... Je pense qu'au XVIIe siècle, ça devait être bien déjà, hein, les femmes qui entendaient non, non. Je pense qu'elles n'étaient pas dupes non plus. Mais aujourd'hui, bien sûr, qu'on l'entend différemment.
C'est touchant que ça vous touche.
Oui, ça me touche.
On sent que ça parle à Macha Makeïev et qu'il faut transmettre ça, son émotion, à un public.
Oui.
Notamment avec une comédienne qui n'est pas une jeune première, et je trouvais ça intéressant aussi. Beaucoup de metteurs en scène prennent une actrice qu'ils ont découverte au conservatoire et qui deviendra peut-être célèbre ou non. Là, Irina Solano a déjà travaillé.
Oui, elle était déjà dans Tartuffe, dans une Dorine très étonnante, qui était une suivante et non pas une servante. Donc une femme entre deux situations sociales et deux âges aussi, et elle interprétait sa perdition d'une façon magnifique et joyeuse. Et là, à cet endroit, Irina nous montre parfaitement la division que crée Don Juan chez les femmes. C'est-à-dire, c'est là où le prédateur est terrible. C'est-à-dire, il commence par diviser psychiquement ses êtres. Notamment par le silence, parce que toute la première scène, il ne répond pas. Et quelqu'un qui fait silence alors que vous le questionnez, c'est quelqu'un qui met en face de vous votre inexistence. Et à cet endroit, elle perd pied. Et ça, il fallait montrer dans la première scène cette Elvire qui perd pied parce que justement, le séducteur aimante. Et donc, elle est totalement divisée entre son corps et ce qu'elle comprend de la situation dans laquelle elle est. Et ça, c'est un rôle de femme admirable. Molière connaissait les femmes les plus libres qui étaient les comédiennes de son époque.
Vous avez recours à vos décors, à vos costumes, à votre lecture de la pièce à travers la mise en scène, mais aussi, Macha Makeïev, à des musiques et des chansons, souvent dans votre spectacle, qui peuvent être très contemporaines, les chansons.
Oui, alors je travaille avec Sébastien Trouvé pour le son. On fait vraiment une bande-son qui accompagne tout le spectacle.
Très variée, très éclectique.
Oui, très éclectique. Ça part des Lemon Twigs, qui est de la pop de Los Angeles, jusqu'à bien sûr Grétry, mais aussi Handel et... Oui, il y a quelque chose aussi du décor qui prend la parole, qui fait des bruits, qui manifeste aussi ce que Don Juan a dans son psychisme, c'est-à-dire ce chaos-là.
Oui, je parlais des bruits chez Pomera, il y en a aussi chez Macha Makeïev.
Moi, je suis très sensible à ce que le décor se mette à parler aussi.
On pourrait écouter l'une de ses chansons, The Lemon Twigs. Vous avez, vous avez évoqué ce groupe de Los Angeles, As Long As We're Together, c'est-à-dire aussi longtemps que nous serons ensemble.
Voilà.
Somehow I was standing in your room without my boots, with your spider in my hand. Well, and I look at you, and my skin is red. Yeah, arm to arm and thigh to thigh, even though there's plenty of room. And I look just like an owl, and you think that's just fine. But it doesn't matter anyway.
As long as we're together, I'd say.
Je reviens à la vie du jeune Joseph Farzoumanov, dédain qui brode, qui crée des bijoux, qui fait aussi des installations. Je reviens à ce petit garçon que vous avez été, parce qu'il n'a pas grandi en France, cet enfant. Il a été notamment un enfant de Casablanca. Vous étiez au Maroc. Est-ce qu'il y avait dans déjà votre manie de collectionner des objets particuliers là-bas, des choses que vous rassembliez et qui sont propres à cette région ?
Sur les plages marocaines, sur les plages de Casablanca notamment, il y a beaucoup de petits objets qui traînent. Souvent, ça peut être des ossements de rongeurs, des petits ossements de rongeurs. Aussi plus imposants, on avait trouvé une vertèbre de baleine qu'on avait ramenée à la maison sur la plage à Porte 13 à Casablanca. Donc je pense surtout à ces objets qu'on trouvait sur la plage. Ça peut être aussi des petits cailloux, mais la plage était très présente dans notre enfance à Casablanca.
Est-ce qu'elle est présente dans vos bijoux ?
Non, dans mes bijoux non. Pour mes bijoux, il est plus question de songe, de surréalisme. Et donc la petite chose que Macha me voyait faire pendant le stage, c'était un portrait d'elle enfant. Et je voulais représenter Macha à l'époque où elle faisait ses maraudes dans les rues de Marseille avec son petit frère, parce que Macha m'avait dit que c'était un moment où elle était très heureuse et que, si je ne me trompe pas, dans ton théâtre, tu essayais des fois de retrouver ce sentiment que tu avais. Et ce sentiment d'extrême bonheur, d'intense bonheur, que tu avais à fouiller, à te balader dans les rues de Marseille avec ton petit frère.
Oui, c'est très juste. C'est un aveu, mais c'est un aveu que je partage toujours. Et c'est vrai que cet état d'exaltation de l'enfance, on y revient tout le temps. Et je pense que justement, l'avenir artistique qu'on peut imaginer comme ça, là, juste la seconde d'après, vient souvent du passé. Oui, l'avenir se fabrique avec ce que l'on a vécu. Je pense que oui, il y a une célébration aussi des choses perdues. J'imagine que tu trouvais dans le sable ou dans les galets de la plage ces petites choses abandonnées. C'était voilà autant de trésors. C'est vrai que le théâtre, pour moi, se fait aussi comme ça, avec toute une collection de choses très concrètes, très très matérielles, vraiment des objets que je transporte, mais aussi des gestes humains. Vitesse disait que le théâtre était le conservatoire des gestes humains, et c'est tellement juste, je peux le vérifier à chaque fois. C'est-à-dire l'observation du monde depuis l'enfance, mais ne jamais perdre cette espèce de vigilance de l'enfant qui regarde le monde des adultes, cette extrême tension. Mêlée souvent d'un peu d'effroi, et de la peur que le mensonge va exister. Mais
Joseph, vous avez l'impression de mettre... Voilà, vous êtes jeune encore, je le disais, mais 21 ans, mais est-ce que vous mettez des choses de l'enfance, des souvenirs, ou des rêves, des fantasmes? Vous parlez souvent de trésors que vous avez envie de créer. C'est beau, cette idée. C'est effectivement peut-être de l'ordre du conte.
Oui, oui. Bien, j'ai été bercée par plein de mythes dans mon enfance, par plein d'histoires de découvertes de trésors dans les pyramides aztèques ou dans les pyramides égyptiennes ou même dans nos voyages au Maroc. Quand on visitait des ruines, j'avais toujours envie de trouver des trésors. Je pense notamment aux ruines de Volubilis, ruines de l'Empire romain, magnifiques et désertées par les archéologues, et donc on pouvait se balader parmi les pierres sculptées. J'adorais absolument.
Et à quel moment vous êtes dit je peux moi aussi finalement créer, sculpter, broder et créer des bijoux? Il y a quand même un fossé entre cette création et le petit garçon sur la plage.
Bien, en fait, si je devais faire un lien entre ma création aujourd'hui et mes expériences dans l'enfance, je dirais que j'ai continué à jouer au Lego. Je jouais énormément au Lego. Je créais tout plein de choses, des forteresses, des histoires. Et j'ai continué avec des médiums que sont l'artisanat et aussi les technologies émergentes comme par exemple l'impression 3D.
Oui, ça c'est passionnant parce que vos bijoux et vos broderies naissent aussi de l'intelligence artificielle parfois et de la tradition artisanale de plusieurs pays.
Intelligence artificielle, toujours pas, mais ça va être le sujet de ma résidence aux États-Unis. Je pars demain pour New York, puis Boston avec la Villa Albertine. Donc ça va être mon sujet de recherche. Et aussi, je voyage beaucoup, je pense notamment à mes voyages en Ouzbékistan, en Inde et en Arménie. Je reviens d'Arménie, j'ai appris la sculpture sur pierre là-bas. Et donc j'adore apprendre des savoir-faire qui ont permis de bâtir des trésors pour à nouveau pouvoir créer les trésors que moi-même je rêve de découvrir.
Le dernier bijou que vous avez créé, est-ce que vous pouvez nous le définir, nous dire à quoi il ressemble tout simplement ?
Le dernier bijou que j'ai créé, j'en parlais à Macha juste avant d'arriver ici, c'est un conteur qui raconte des histoires que j'ai créé pour l'exposition de Macha au MUCEM en décembre 2024, qui
donc
s'appelle
à Marseille, oui.
À Marseille, oui, qui s'appelle Clown, Pitre et Saltimbanque. Macha m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais, donc j'ai décidé de faire un duo de sculpture, un violoniste et un conteur qui se baladent dans un monde surréaliste. Et donc ce conteur, il a une traîne de roi, et sur cette traîne, il y a un personnage qui vole une étoile de l'arbre aux étoiles, et en fait c'est toute une histoire qui est racontée sur sa traîne. Il brandit un parchemin avec un tout petit bateau brodé qui est sur un océan avec un palais immergé. Donc c'est un personnage surréaliste dans un monde fantastique. Et c'est un personnage qui raconte des histoires.
Si je vous dis Joseph Arzoumanov Dédain, Antoine Vitez, répondez sincèrement, est-ce que vous savez qui il est ou pas ? Il fait non de la tête. C'est tout à fait normal que mémoire des artistes et des théoriciens du théâtre se perde comme la mémoire d'un artiste tout court, Macha Makeyev. Mais s'il est un homme qui a compté dans votre formation, c'est bien Antoine Vitez qui vous invite à faire une première mise en scène à l'époque à Ivry.
Oui, tout à fait. Et puis avant toute chose, c'est son regard. C'est-à-dire, il m'écrivait des petits bouts de phrases de temps en temps où j'avais peur de me perdre un peu, et c'était pas si simple que d'aller là où j'allais. Et il me parlait toujours du regard et de la lumière, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je crois que si Antoine n'avait pas su me regarder à cet endroit, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de difficultés. Et cette transmission du regard... nous n'existons pas sans le regard de l'autre. Nous, au théâtre, on le vérifie tout le temps, tout le temps.
C'est pour ça que souvent dans les émissions, et notamment la mienne, Le Grand Atelier, version 2h, je la citais tout à l'heure, vous étiez déjà venu avec des plasticiens tout jeunes ou des jeunes metteuses en scène.
Oui, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la conversation artistique. Et pour moi, il n'y a pas d'obstacle. Une génération ne sera jamais un obstacle. Une expérience ne sera jamais un obstacle. Et de la même façon, les gens avec qui je travaille dans les spectacles, que ce soit Jean Bellorini, j'ai parlé de Sébastien Trouver, Jeanne-Marie Lévy et Guillaume Siard pour le mouvement. Ce sont vraiment des conversations artistiques, c'est pas des prestations, c'est quelque chose d'une confiance vraiment. On offre à l'autre son imaginaire. Et
il y a une forme de transmission peut-être aussi.
Oui, aussi. Quelque chose circule de cet ordre-là, et je pense que, comme dans un centre dramatique national, j'ai aimé qu'il y ait toutes les disciplines représentées. Eh bien, je pense que dans une compagnie, dans ma petite compagnie, toute petite...
Qui s'appelle Mademoiselle
et qui est bien modeste, eh bien, elle a aussi cette mission-là.
Ben, ça s'appelle Compagnie Mademoiselle, théâtre, art visuel et transmission, tiens.
Oui.
Avec pour mission, je continue de citer, la création théâtrale, d'exposition et de performance. C'est très très long.
Ben, il fallait un petit peu, là aussi, bouger un peu ce qu'était une compagnie, parce que si c'est juste moi, mes œuvres et moi-même, ça commençait à m'ennuyer déjà beaucoup.
Là, ça inclut vraiment l'idée d'ouverture,
d'éclectisme, voilà, d'une conversation avec les autres disciplines et avec les autres artistes. Et ça m'est vital.
On a cité Vitez, on l'écoute justement en 1979, quand Jérôme Deschamps et Macha Makeyev créent leur compagnie.
Faire du théâtre, c'est faire un théâtre. C'est-à-dire, c'est avoir une action perpétuelle. Monter de grandes œuvres, bien entendu, mais aussi tout un tissu de travaux dramatiques qui peuvent être de très petits essais, comme aussi des expériences de laboratoire montrées à des gens ou pas montrées à des gens. Peut-être que le théâtre populaire n'est pas le théâtre de masse. ce n'est pas nécessairement un théâtre de masse. Populaire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on rassemble chaque fois 4000 personnes, mais on peut rencontrer 4000 personnes en de très nombreuses fois. Néanmoins, on aura rencontré 4000 personnes.
Décidément, Machin Maquillage vous fait écouter des fantômes bienveillants. On a commencé avec Agnès Varda,
oui.
Et voici Antoine Vitez. Et la magie de la radio, c'est qu'il nous parle vraiment aujourd'hui. Ce qu'il dit, vous pourriez le dire aujourd'hui?
Certainement, et puis moi j'aime bien continuer la conversation avec ceux de l'au-delà.
Oui, alors comment vous y prêtez-vous? C'est par écrit? C'est...
Aussi, mais c'est quelquefois, je sens bien que leur regard protège la création, que leur regard me guide aussi, et surtout le niveau d'exigence en ce qui concerne Antoine Vitez, c'était quelqu'un d'une telle exigence et d'une telle élégance, et qui laissait la place à chacun, chacune. On était, tous ceux qui l'ont approché, on était si différents, et il s'intéressait à chaque singularité, enfin, à la singularité de chacun plutôt. Et c'était assez étonnant, il nous disait des phrases qui sont restées, faire théâtre de tout, c'est-à-dire même sans les comédiens, un récit peut être encore un spectacle. Moi, j'en ai fait ça, mais...
Faire théâtre de tout pour Macha Makayev, c'est inventer des costumes, on le disait tout à l'heure.
Oui, c'est la part plastique du théâtre qui...
Réfléchir au décor.
Oui, c'est évidemment la préméditation pour les artistes que j'admire, qui sont les comédiens et les comédiennes, mais c'est aussi la part plastique qui peut se déplacer dans un autre lieu que le plateau, et qui peut encore raconter des choses, et que grâce au regard du spectateur, du visiteur, de la visiteuse, du petit enfant qui va traverser en courant cet espace-là, dans une exposition, une installation, ça va faire récit aussi. Ça va s'imprimer. Il y aura là encore quelque chose de l'ordre de ce qui se raconte.
Avec son mari, Jérôme Deschamps, Macha Makayev, je me tourne vers Joseph, parce que je ne sais pas si tu les connais, a créé les Deschiens.
Oui.
J'ai dit tu, pardon. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr.
Ouais, on écoute peut-être un des spectacles des Deschiens. C'est magnifique. C'était le titre du spectacle.
Bruno, mon beau-frère.
Oui.
Hein, qu'à quel âge?
34.
Et quelle taille?
1,78.
Ton poids?
72.
Âge, taille, poids?
34, 1,78, 72.
Taille, poids, âge?
1,78, 72, 34.
Âge, poids, taille, poids, âge, taille, poids, âge, taille.
34, 72, 118, 118, 72, 72, 118, 72, 72, 34.
Une salle qui rit, quel bonheur. François Morel, Bruno Locher, parmi les nombreux...
Je salue avec la plus grande affection.
Oui, il écoute François Morel, l'émission, j'en suis très fier.
Je n'en doute pas.
Parmi les nombreux comédiens de la troupe, dont Yolande Moreau, Saladin...
Magnifique, il a réussi quand même à faire chanter, entonner... au Châtelet, toute la salle de première parisienne, tout le monde a chanté, c'est magnifique. Voilà une grande actrice aussi magnifique que je salue aussi, que j'embrasse.
Ils ont été un peu comme les petits objets que ramassait Joseph sur la plage de Casablanca. Vous tous ensemble, vous étiez ces petits objets qui progressivement deviennent des bijoux.
Oui,
il y a eu un travail ensemble de troupe et d'écriture.
Oui, bien sûr, et... C'était un émerveillement aussi, c'était aussi une folie, c'était jouer les idiots magnifiques, c'était une liberté artistique incroyable, et voilà, c'est des gens pour qui j'ai admiration et affection, oui.
On va vous retrouver, Macha Makayev, Joseph Arzoumanov, Dédain dans le Grand Atelier sur France Inter, juste après, Junior, le silence.
À quoi tu penses? C'est moi qui pense à toi. Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand le vide est si dense qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois? Quand le crépuscule est immense, que le plan finit. J'ai tendance à penser que ça va de soi. Je me dis tout en nuance. silence, on s'habituera. Et l'absence, tu crois, et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain fait pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, romancer tout et n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches pour revoir l'envers à l'endroit? Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis ici et toi là-bas. J'ai tendance à penser que ça va de soi. Je l'ai dit tout en avance, quand je suis ici et toi là-bas. Il y a des chances que tu penses à moi, tu penses à toi.
Junior, le silence.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
On en vit très très fort celles et ceux qui vont partir pour Cannes au festival. Il y aura notamment dans la section Cannes Classics un documentaire inédit sur le cinéaste Jacques Demy. Le Rose et le Noir, nouveau film de Florence Plattaré avec au scénario Frédéric Bonneau. Et vous trouvez aussi en kiosque, un peu partout en France, un hors-série des Cahiers du cinéma consacré au réalisateur des Demoiselles de Rochefort et de Trois places pour le 26. Passionnant travail des spécialistes de cinéma Thierry Jousse, également producteur à France Musique, et de Marcos Uzal. Entretien oublié avec le cinéaste, témoignage de passionné de Jacques Demy, Deneuve qui sait lui devoir beaucoup, Christophe Honoré, le cinéaste, ou Damien Chazelle, sans doute deux héritiers. Il n'est pas seulement Demy l'inventeur d'une comédie musicale à la française, mais vraiment un cinéaste curieux et ambitieux, malgré pas mal d'échecs. Écoutez Thierry Jousse évoquer celui qui, sur la couverture du hors-série, Jacques Demy, porte une casquette de marin-pêcheur.
Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis.
Les marins font de mauvais maris. Marin, ami, amant ou mari, les marins sont toujours absents.
Il y a des marins dans les films de Jacques Demy. D'ailleurs, la photo, c'est une photo qui date de l'époque des Demoiselles de Rochefort, où justement les marins sont assez présents, mais ils sont présents dès Lola, donc son premier long métrage qui est tourné à Nantes, sa ville natale, que je connais bien parce que j'en suis aussi issu, ce qui me donne une sorte de lien personnel et qui n'intéresse que moi d'ailleurs à Jacques Demy.
Thierry Jousse, avec votre équipe, vous revisitez tous ces films, c'est-à-dire que on referme ce hors-série Cahiers du cinéma Jacques Demy en sachant tout ce qu'il a fait et on voit que certes la comédie musicale est au centre, mais qu'il a abordé beaucoup de genres cinématographiques et que beaucoup de ces films sont différents les uns des autres. Le joueur de flûte est différent des Demoiselles de Rochefort, Model Shop est différent de Trois places pour le 26. Il a osé énormément de cinéma au pluriel.
Oui, c'est un cinéaste qui a pris Demy beaucoup de risques. Il l'a payé d'ailleurs, hein, puisqu'il a eu aussi beaucoup de difficultés. C'est à monter un certain nombre de projets qui n'ont jamais vu le jour. J'ai coutume de penser que c'est un cinéaste dont la filmographie fantôme est aussi abondante que la filmographie réelle. Donc c'est très particulier. Il est totalement singulier parce qu'on le rattache à la Nouvelle Vague, mais en même temps, il n'en est pas vraiment un membre à part entière. Il est à part. Et effectivement, on a voulu dans ce numéro et notamment dans cette filmographie biographies commentées avec des articles anciens et des articles récents, montrer la palette ou les palettes de Demy qui sont beaucoup plus larges effectivement que ce qu'on pourrait penser. Malheureusement, c'est vrai qu'il a eu une carrière un peu accidentée à partir de l'insuccès, voire de l'échec de l'événement le plus important. Il y a un film très curieux hein, d'ailleurs, où quand même Mastroianni est enceinte.
Voilà, papa et moi, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer.
Je suis enceinte.
Oh merde. Je savais pas que ça pouvait arriver aux hommes.
Je me disais aussi, prends du ventre, Mazetti. Mais après tout, on en prend tous un jour ou l'autre.
Ou enceint.
Dans les années 70.
Voilà, donc il y a un film qui anticipe peut-être certains aspects des mouvements queer d'aujourd'hui, par exemple. Mais c'est vrai qu'après, il a eu beaucoup de difficultés à monter des projets. Il y a ce film qui se passe à l'aube de la Révolution française, qui a été produit par des Japonais, qui s'appelle Lady Oscar, mais qui a été distribué seulement quelques années plus tard en France sans succès. Une chambre en ville a malheureusement été un échec. Donc Parking est malheureusement un échec commercial, mais aussi artistique. Il le reconnaissait lui-même. Donc c'est vrai que c'est une filmographie très accidentée, mais c'est intéressant de la revisiter intégralement et pas seulement de se fixer sur les succès ou sur les films phares, qui sont évidemment des films qui sont inusables, on pourrait dire, dans le bon sens du terme. Mais voilà, oui, la palette est beaucoup plus large qu'on pourrait le croire.
Pourquoi un hors-série aujourd'hui sur Demy, dans la mesure où il n'y a pas spécialement d'anniversaire? On a l'impression qu'il vous manque et qu'il ne faut pas oublier son audace, son originalité, sa sensibilité.
Demy est assez présent, je trouve, dans la sensibilité contemporaine, justement. Il y a pas mal de jeunes gens qui, pour ce que j'en sais, hein, bon, mais qui ont l'air d'aimer beaucoup certains films de Demy. Hein. Donc, je pense que c'est un cinéaste voilà, qui, dont l'actualité, finalement, est peut-être plus grande qu'il y a 20 ans, paradoxalement. Et puis, il y avait quand même une petite actualité très relative, c'est les 60 ans de la Palme d'Or des Parapluies de Cherbourg, hein, qui va quand même être projeté à Cannes en version restaurée 4K, comme on dit. Et ça, c'est quand même un des plus grands films. Pour moi, c'est un des plus grands films français, voire de l'histoire du cinéma, et peut-être la plus belle Palme d'Or. Donc ça suffisait pour nous donner une sorte de prétexte à faire ce numéro que de toute façon on avait envie de faire.
Si vous deviez regarder un film de Demy ce dimanche soir, Thierry Jousse, quel serait-il ?
Ah, ça serait peut-être La Baie des Anges, qui est peu cité aussi, hein, son deuxième long métrage avec Jeanne Moreau en blonde, qui se passe justement à Nice. Parce que c'est un film que je n'ai pas revu depuis longtemps et qui fait partie voilà des films un peu sous-estimés de Demy, comme pas mal finalement, et que j'ai toujours plaisir à revoir avec une très belle musique de Michel Legrand, qui n'a pas lui non plus fait que les musiques des Parapluies de Cherbourg, Demoiselle de Rochefort ou de Peau d'Âne.
Michel Legrand, Jacques Demy, ça aussi, ça mérite combien d'heures d'émission ?
Ah, c'est magnifique, oui.
Vous aimez Demy ?
Oui, j'aime Demy, parce que j'aime ce regard, là aussi. Il paraît toujours étonné par la vie. Il est sans arrêt enchanté par les acteurs, les actrices, par les couleurs. C'est une capacité qu'il a su conserver. J'aime beaucoup ça.
Vous employiez tout à l'heure le mot de mélancolie à votre propos. Dieu sait si elle coule aussi dans ses veines et dans son cinéma. Hein.
Oui. Et pourtant, il y a comme une obligation à la joie, mais elle est toujours contrariée, là aussi. Et c'est assez beau, ce carambolage.
C'est intéressant ce que disait Thierry Jousse. D'ailleurs, je précise que son hors-série coûte 12,90 €, sur le fait qu'il y a des accidents dans la vie de Demy, dans sa vie professionnelle. Est-ce que... Alors ça, c'est souvent vrai au cinéma. Moi, je me souviens de Chéreau, à la fin de sa vie, continuait à aller sonner aux portes des producteurs. On ouvrait, on disait « Non, monsieur Chéreau, au revoir ». Et donc, il abandonnait des projets. Est-ce qu'au théâtre, c'est aussi fréquent ?
Oui, c'est pas exactement la même chose, mais ça arrive. Oui, il y a... C'est très difficile d'aller justifier que l'on a besoin de moyens de production pour son rêve. C'est un exercice. Certains y arrivent très bien avec aisance. Moi, je sais que je sais très mal le faire. Et pourtant, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour monter un projet. On a besoin de coproducteurs. On a besoin d'alliés. Et oui, c'est un exercice extrêmement difficile. Et c'est pas seulement de l'amour propre. C'est qu'on aimerait, être accompagné tout le temps, comme ça. On aimerait quelque chose de providentiel. Et ça n'existe pas. Il faut demander. Il faut chercher ses alliés tout le temps. Mais après tout, cet exercice de la page blanche et de vous avez fait un spectacle et après tout est à reconstruire, c'est peut-être ce qui nous tient en vie, oui.
Joseph Arzoumanov-Dédin, vos bijoux s'adressent à tout le monde. On peut en acheter si on va sur un site particulier. Essayez de vous vendre un peu. C'est pas honteux du tout, parce que vous vivrez de ça aussi.
Eh bien, pour financer mes sculptures les plus ambitieuses, je vends des bijoux sur Instagram uniquement. Et c'est jo.dhn. Et je prends des commandes de bijoux en tout genre, toujours avec ma touche personnelle. Et ce que je prends le plus de plaisir à faire, bien sûr, ce sont les sculptures, et c'est le début. Et j'espère en faire toujours de nouvelles, et aussi des installations, des choses comme ça. Donc c'est pas très rémunérateur, mais je m'amuse énormément. Et c'est ce qui compte. Je joue au Lego tous les jours.
Oui, vous continuez, comme vous le disiez tout à l'heure, à jouer au Lego. Vous vivrez où dans quelques années d'après vous, puisque vous avez beaucoup parcouru le monde. Je ne sais pas ce que font vos parents ou ce que faisaient vos parents. Dites-nous, pour avoir autant voyagé.
Eh bien, mes parents, ma mère est chanteuse lyrique et comédienne. Elle a été aussi professeure d'allemand. Et elle nous a éduqués, nous, les cinq garçons. Elle nous a donné une éducation musicale très complète. Et mon père, il travaille dans la banque.
Merci beaucoup, Joseph Arzoumanov-Dédin, d'avoir été l'invité de Macha Makeyev. Première radio, je le rappelle, sur France Inter. Macha Makeyev, oui. Bonne suite à votre Don Juan.
Merci.
Ne tombez pas amoureuse de lui. Stéphanie Texier a réalisé cette émission. Karen D et Louise Lemoine m'ont aidé à la préparer. Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait à la technique Baptiste Collion. L'émission se réécoute, vous le savez, et ce podcast sur franceinter.fr et sur la page Facebook du Grand Atelier. Vous êtes attendus tous les jours. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h dans la balade d'Alex Baupin, s'il vous plaît, et dimanche dans le grand atelier du romancier Hervé Letellier.
C'était Vincent Josse et le grand atelier sur France Inter. Après le journal, retrouvez les grands récits de Philippe Collin.